Merci Yannick, et donc merci à Entrevue pour cette invitation. On est ravis tous les trois. Donc je vais vous présenter tout de suite de présenter finalement ce numéro 12 des Cahiers Benjamin Perret qui correspond à un anniversaire, aux 60 ans d'une association donc qui est née on en redira un peu plus bientôt, mais qui est née en 1963. Sous l'égide d'André Breton, donc quelques années après la mort de Benjamin Perret en 1959. Alors, on a voulu vous accueillir, vous l'avez vu, par un visuel explosif, volcanique même, de l'ami Guy Roussy, qui était membre de l'association des Amis de Benjamin Perret, parce que, disons, notre objet ce soir, donc c'est, vous l'avez compris, vous présenter ce numéro 12 et puis vous faire sentir aussi ce qui est le titre de notre soirée, c'est-à-dire qu'avec Benjamin Perret, le langage devient poésie. Alors, c'est ce devenir poétique du langage qu'on va essayer de vous rendre sensible. À ma gauche, donc Carla Segura Pantora, j'espère que j'ai bien prononcé, et Florence Cousin, donc tous les trois, donc avec des lectures de Florence qui vont ponctuer un peu cette présentation. Donc on voudrait donc à la fois présenter ce cahier numéro 12, donc qui est un peu spécial dans l'histoire de notre association. On en fait un par an, donc ça fait 12 ans que non pas que l'association existe, hein, je vous l'ai dit, elle existe depuis 1963, mais 12 ans que cette revue existe, et qu'elle existe pour une raison assez simple, c'est-à-dire que chaque année quand même, on parvient à trouver des inédits sur Benjamin Perret, on parvient à trouver des correspondances qui n'avaient pas encore été, disons, jusqu'alors, été portées donc à l'attention du public, et on parvient aussi à trouver un certain nombre de personnalités qui trouvent au sein de cette poésie quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Bon. Et alors, je voulais juste, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, lire en écho avec justement le volcan de l'ami Guy Roussy, cette petite phrase de Jean Ferry et d'Ado Kirou. J'ai rencontré son fils il n'y a pas très longtemps, que j'ai fait intervenir dans l'école où je travaille. Donc Jean Ferry et Ado Kirou rendaient compte dans Bizarre, une autre revue, hein, en 1956, de Mort aux vaches et aux champs d'honneur. Et il disait: ce livre, ou plutôt ce pétard à répétition explosant, ce pétard à répétition explosant sous les fesses de ce que nous haïssons, n'a pas à être raconté, commenté ou décrit, exercice à quoi il ne se prête d'ailleurs pas plus que le regard d'une femme, une fusée magique ou la révolte de ceux qui ne tendent pas l'autre joue, puisqu'il y a tout cela et le reste qu'il faut lire. Donc ce côté pétaradant aussi, donc qui pétarade un peu comme le volcan de Guy Roussy, on va essayer de vous le faire sentir, de vous le faire entendre, et d'abord par une première série donc de lectures de Florence qui va ouvrir véritablement cette rencontre. Donc je te laisse, Florence. Donc on va entendre un certain nombre de textes que tu vas nous présenter.
Ça marche? Oui. Sont tirés des tomes 1 et 2 des œuvres complètes de Benjamin Perret. Extrait de Dormir, dormir dans les pierres, 1926. À quoi bon les germes des astres dans le sillage des végétations obscures? À quoi bon les mains d'écume sur le versant des collines? À quoi bon la vase devant la nuit? À quoi bon le soleil mousseux près de moi? À quoi bon l'invisible mirage des roches? À quoi bon les animaux du jour si la nuit roule perpétuellement sur la pente du poison, et si le tonnerre des sables s'évapore comme la goutte des images? Cette goutte d'amour que nul ne recueille jamais, car elle s'évapore trop vite, si vite qu'elle n'est jamais que vapeur. Et si cette vapeur s'échappait des yeux vivants de la tempête? Mais la tempête ment comme une soupe. À quoi bon? À quoi bon te lever sur le pied droit, puisque le pied gauche t'attend? Comme la lune attend les torpilleurs qu'elle ne rejoindra jamais. Ah, torpilleur, à quoi bon? À quoi bon, torpilleur, votre cauchemar d'éponge, puisqu'il restera cauchemar, comme l'eau reste vent, et le vent éponge? À quoi bon, puisque tout n'est qu'eau et vent, comme vous et vos cauchemars? À quoi bon, mon torpilleur et mon cauchemar se confondent dans une goutte d'eau qui tombe perpétuellement sous mon crâne et jamais ne fera ni un lac ni un ruisseau, car c'est l'inverse que je vois. Les crocodiles se promènent comme des reines et les reines vivent avec les taupes. À quoi bon les saluts des interstices qui séparent la chair des arbres, si les arbres s'effondrent dans l'océan des talons, comme s'effondrent mes yeux au passage de midi? À quoi bon les poussières des hauteurs et le frôlement voluptueux des lignes lumineuses sur des jambes d'azote? À quoi bon le passage d'un point à un autre? À quoi bon les lignes de la main et le charbon qu'elle cache? À quoi bon l'enfance des eaux? À quoi bon les lueurs qui disparaissent à l'horizon? À quoi bon mon amour dans une corne gelée? À quoi bon la corne gelée qui ne se renversera jamais sur mon amour, car il est autour de la corne, comme les pierres autour de la maison? Maintenant, deux poèmes extraits de Le Grand Jeu, recueil publié chez Gallimard en 1928 et dédié à André Breton. S'essouffler, à Max Maurice. Ah, fromage, voilà la bonne madame. Voilà la bonne madame au lait. Elle est du bon lait du pays qui l'a fait. Le pays qui l'a fait était de son village. Ah, village, voilà la bonne madame. Voilà la bonne madame fromage. Elle est du pays du bon lait qui l'a fait. Celui qui l'a fait était de sa madame. Ah, fromage, voilà du bon lait. Voilà du bon lait. Il est du bon lait qui l'a fait du fromage. Le lait qui l'a fait était de sa madame. La semaine pâle. Blonde. Blonde était la femme disparue entre les pavés, si léger qu'on les aurait crus de feuilles, si grands qu'on eût dit des maisons. C'était, je m'en souviens, un lundi, jour où le savon fait pleurer les astronomes. Le mardi, je la revis, semblable à un journal déplié, flottant au vent de l'Olympe. Après un sourire qui fila comme une lampe, elle salua sa sœur La Fontaine et retourna dans son château. Mercredi, nue, blême et ceinte de rose, elle passa comme un mouchoir, sans regarder les ombres de ses semblables qui s'étendaient comme la mer. Jeudi, je ne vis que ses yeux, signaux toujours ouverts pour toutes les catastrophes. L'un disparut derrière quelques cervelles et l'autre fut avalé par un savon. Vendredi, quand on aime, est le jour des désirs. Mais elle s'éloigna en criant « Tilbury, Tilbury, ma flûte est perdue. Va-t'en la rechercher sous la neige ou dans la mer ?» Samedi, je l'attendais, une racine à la main, prête à brûler en son honneur les astres et la nuit qui me séparaient d'elle. Mais elle était perdue, comme sa flûte, comme un jour sans amour. Et j'attendais dimanche, mais dimanche ne vint jamais. et je restais dans le fond de la cheminée comme un arbre égaré. Extrait d'Air mexicain, 1952. Alors, ce texte est imprégné de personnages mythologiques. Octavio Paz, prix Nobel de littérature mexicain, a dit que c'était l'un des plus beaux poèmes qui exprime l'âme du Mexique. Le feu, vêtu de deuil, jaillit par tous ses pores. La poussière de sperme et de sang voile sa face tatouée de lave. Son cri retentit dans la nuit comme l'annonce de la fin des temps. Le frisson qui se hâte sur sa peau d'épine court depuis que le maïs se lisse dans le vent. Son geste de cœur brandit à bout de bras s'achève en 52 ans dans un brasier d'allégresse. Lorsqu'il parle, la pluie d'orage excite les réflexes des lueurs enfouies sous la cendre des anciens rugissements que les lions de feu lancent en s'ébrouant. Il écoute et n'entend couler que le torrent de sa sueur d'or avalé par le nord noir. Il chante comme une forêt pétrifiée avec ses oiseaux sacrifiés en plein vol, dont l'écho épuisé traîne le ramage qui va mourir. Il respire et dort comme une mine, cachant sous des douleurs inouïes ses joyaux de catastrophe. Le nord en deuil perpétuel déjà rejetait ses vagues d'êtres sans visage et sans voix toujours avides d'air neuf. Et les blocs écroulés des demeures chères au maître des désirs de l'univers se redressaient pour d'autres génies enragés, que la plante à chevelure d'épousée calmait de son sourire sans cesse renaissant, comme l'étoile du serpent à plumes. Le feu nouveau brillait rythmiquement 13 fois. Les années du silex de la maison du lapin et du roseau s'engendraient mutuellement comme le cri appelle l'écho heureux de sa vie d'insecte suspendu au-dessus d'un nuage liquide buvant midi. De l'œil qui éveille pour mieux endormir était descendu le serpent à plumes, blanc et barbu, offrant comme jadis au sommet des monts d'adoration à la lumière et à l'ombre valsant toute la vie et les couleurs vivantes créées par leur souffle d'or et d'argent alternés. Mais le miroir fumant, roulant sur des cœurs présentés aux siens, arrivé d'un seul bond des cités trop sacrées par l'oubli, pour qu'on vive là où les deux mères saisissent la corne d'abondance de leurs mains, qui veulent se joindre pour supplier l'écorché de revenir à leur promise. Et la vapeur de sang fiévreux qui le précède d'une haleine de volcan donne un vertige exaltant comme l'accomplissement d'un destin deviné, aggravé par un lait d'étoiles qui pénètre d'un jet de fumée gonflant ses voiles, les têtes à cervelle de métal nouveau-nées. Or d'ici, ombre des virgules chantantes, la voix du sang brumeux parle un langage d'arc-en-ciel.
Donc avec ce langage d'arc-en-ciel, justement, on s'avance sans doute, je pense que vous l'avez senti, vers justement ce devenir poétique justement du langage. Et maintenant, on va entrer un peu plus dans, disons, dans l'architecture de ce numéro 12. Donc, comme je vous le disais, qui concerne d'abord, qui, pour sa première partie qui comporte un dossier donc sur les 60 ans de l'association. Et on va vous rappeler un peu les circonstances, enfin Carla va nous rappeler un peu les circonstances de la naissance de cette association, donc pour ensuite vous donner quelques idées donc, de ce premier dossier, enfin le dossier essentiel de ce numéro 12. À toi, Carla.
Bonsoir. Donc, les cahiers numéro 12 que nous vous présentons ce soir comportent un dossier sur les 60 ans de l'association. Donc, Perret, il est mort le 18 septembre 1959. Et c'est 3 ans plus tard, à l'initiative d'André Breton, que l'association des Amis de Benjamin Perret est fondée. Si l'idée de la création de l'association était évoquée depuis la mort du poète, c'est à la suite d'un article insultant, un article de presse de l'ancien surréaliste Georges Hunier à l'encontre des Perret que la création de l'association se concrétise. Donc Robert Lebel, premier président de l'association, précise, je cite, « Certains de ses amis songèrent à se grouper pour assurer au moins la survie de son œuvre et un premier travail de classement fut entrepris. Virtuellement fondée à cette époque, notre association doit sa création légale à un article catalyseur de Georges Hunier dont les injures assez méprisables eurent pour effet de déchaîner l'indignation et de faire affluer des adhésions nombreuses. En effet, parmi les membres fondateurs, on relève les noms de René Allot, Jean-Louis Bédouin, Georges Bernier, André Breton, Lise Desarmes, Édouard Jaouer, Pierre Massot, Pierre Navi et José Pierre. Donc, depuis la fondation, il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés, donc Robert Lebel, de 1963 à 1984, Jean-Louis Bédouin de 1984 à 1996, et Claude Courteau de 1996 à 2008, et Gérard Roche qui est actuellement le président depuis 2008. Donc au lendemain de la fondation, l'association édite la plaquette de la part des Perret, qui comporte un dossier documentant l'affaire Hunier, qui avait insulté donc Perret dans la revue Art, en novembre 1962. La plaquette recueillait des documents relatifs aux incidents qui ont suivi l'article dans cette revue et une nombreuse correspondance en réaction aux propos des Hunier. Il y a notamment des lettres, par exemple, d'Octavio Paz. Je cite « Les insultes à la mémoire des Perret relèvent que notre cher ami ne cesse pas de vivre et que sa présence morale est encore une pierre des scandales. Une société des amis de Benjamin Perret s'est constituée. Je vous prie, cher André, d'utiliser mon nom sans réserve. Pour moi, c'est un devoir de faire partie de cette association. » Dans son introduction à la plaquette, Robert Lebel cite un extrait du texte donc calomniateur des Hunier. Je cite « Il a fallu, les saletés se reproduisent comme le reste. Que ces tirs au flanc, ces pousses au crime, ces parasites embusqués, les plus loin possible, le nommé Benjamin Perret, si mal placé pour parler d'honneur, s'est chargé de publier à Mexico en 1945 l'abject déshonneur des poètes. » Fin des citations. Donc en effet, Perret écrit en exil au Mexique, le déshonneur des poètes, un texte contre la poésie des circonstances, en réaction à la publication de l'honneur des poètes, recueil qui rassemblait des poèmes engagés de Pierre Emmanuel, Louis Aragon, Jean Lescure, Pierre Séguier, Stardieu, Éluard, Desnaux, Hunier, Fresneau et Ponge, parmi d'autres. Et avant de passer à la lecture d'un extrait du Déshonneur des poètes, je voudrais vous parler brièvement de Jean-Louis Bédouin. Donc Jean-Louis Bédouin, qui était le deuxième président de l'association, il fut d'abord secrétaire et ensuite président. Donc, quand Perret est rentré de son exil mexicain en 1947, Perret et Bédouin, ils se voyaient presque tous les jours et sont devenus amis proches. Jean-Luc Bédouin, il a publié aux éditions Seguer un livre très enthousiaste qui présente l'œuvre et la vie des Perret. Donc publié en 1961. Dans les cahiers, dans les numéros 12, on reproduit un extrait de cette présentation. Dans ce texte, il apparente la création poétique des Perret à celle des créateurs des mythes. Il dit que qu'il développe un monde où tout est possible et la nécessité n'est plus loi. Bon, je ne vais pas vous lire des extraits de l'introduction, mais de ce qu'on a reproduit dans les cahiers, mais je vais vous lire des tout petits passages ici qui vont vous peut-être vous donner envie de lire ou relire Perret. C'est que la poésie de Benjamin Perret irrésistiblement porte au partage. Elle n'est pas de celles que l'on peut garder pour soi, comme une joie qui soudain vous inonde et qu'il faut faire partager, dont il faut extérioriser les trop-pleins. Poésie faite pour être lue à haute voix, pour être offerte, dans un sentiment de fraternité universelle qui embrasse aussi bien les moineaux que la fraise des bois, couvercle des pianos, non pardon, les pins que les volcans ou les fils à coudre, les pingouins, les couvercles des pianos, la salade ou les bouts de l'oreille, que les locomotives, le cyclone, les vins blancs ou la pointe des seins qui rencontre les vents frais et dit bonjour. Et c'est pourquoi, entre autres choses, cette poésie est révolutionnaire, militant à sa manière, qui est la bonne, pour une véritable expropriation de la beauté classique, pour une totale collectivisation du merveilleux. Encore un tout petit passage. Pourquoi il faut lire aujourd'hui Perret. Aujourd'hui, aujourd'hui que notre myopie ne nous permet plus guère que de saisir séparément une ou deux des infinies propriétés possibles d'un objet ou d'un être, je dis que la lecture des contes de Perret constitue un indispensable exercice de rééducation de la vue mentale.
Merci Carla pour cette première incursion dans le dossier principal de cette revue, donc qui concerne l'histoire de notre association et qui passe par effectivement des signes qu'on adresse finalement à ceux qui nous ont aidés à mieux lire Perret. Donc tu as parlé de Jean-Louis Bédouin. Moi j'aimerais enchaîner, puisqu'il y a une transition qui s'est faite comme ça entre Jean-Louis Bédouin et le second président de l'association auquel on rend aussi hommage, qui est Claude, le troisième après Robert Lebel, donc Jean-Louis Bédouin et Claude Courteau, donc qui a consacré lui le second livre essentiel sans doute sur Perret, donc qui est une introduction à la lecture de Benjamin Perret, qui paraît en 1965 aux éditions Losfeld, et donc Claude Courteau, que certains ont connu parmi l'auditoire, bien sûr. On a un peu, c'est pas qu'on a oublié son livre, mais il a jamais été effectivement réédité, mais c'est une étude plus approfondie que celle de Jean-Louis Bédouin, de quelqu'un qui avait d'abord une ambition universitaire, finalement, qui a commencé par s'intéresser comme peut-être les jeunes agrégatifs de l'époque, ce qu'il était. Il s'est intéressé à Éluard. Il avait l'ambition de faire une thèse sur Éluard. Et puis, tout à fait par hasard, il est tombé sur l'œuvre de Perret, ce qui a complètement, finalement, réorienté sa vie intellectuelle. Et il a adressé le manuscrit que lui a inspiré cette œuvre à Jean-Louis Bédouin, puisqu'il avait eu connaissance, évidemment, du petit livre livres des éditions Segers, qui étaient extrêmement diffusés, hein, qui restent d'ailleurs très, très faciles d'accès. Et donc, cette introduction à la lecture de Benjamin Perret, il nous a semblé opportun, de, par Claude Courteau, d'en rappeler l'importance. Donc, là aussi, on a choisi un extrait. Alors, en réécoutant une des formules là, de Bédouin, qui est assez frappante, cette idée de collectivisation du merveilleux, bon, qui reste dans l'oreille, et je crois qui porte encore aujourd'hui, parce que, bon, évidemment, il y a toute une portée et politique et poétique, puisque chez Perret, bon, les deux éléments sont à la fois séparés, hein, puisqu'il n'a jamais voulu confondre les deux, et en même temps, évidemment, il y a une portée souterrainement politique de sa poésie. Bon. Et ça, évidemment, c'est pas tombé non plus dans l'oreille d'un sourd pour Claude Courteau, donc qui est le premier, je dirais, donc à avoir entrepris vraiment une lecture systématique de l'œuvre de Perret. Et ça compte toujours, je crois. Donc là, on a choisi un petit passage, hein, de l'introduction de son livre, où il dit, bah, finalement, il annonce une découverte prochaine de Perret. On est en 65, hein, en disant, bon, bah voilà. Sans aucun doute, les universitaires vont s'y intéresser, vont se jeter sur cette œuvre. Bon, là, en termes de présage, ça n'a pas été exactement, disons, tout à fait proche de la réalité, puisque bon, les thèses sur Perret, bon, il y en a une qui a été réalisée donc à côté de moi. Bon, c'était pas exclusivement, mais disons, ça comportait quand même des passages sur Perret. Et on a une autre adhérente qui a fait une thèse sur les contes de Perret. Bon, que je sache, donc il y a la thèse de Léonore Desabreux sur Perret au Brésil. Donc bon, elles sont pas nombreuses. Mais Courteau, à ce moment-là, en 65, dit, ben voilà, il y a quand même beaucoup de sujets qui devrait intéresser les jeunes chercheurs, qui semblent, disons, dans l'air du temps. Et il les énonce, et je crois que je voulais rappeler cet énoncé, puisque ça pose un peu l'amplitude de vue de Perret de manière générale. Il y a Perret théoricien de la poésie, Perret analyste de l'amour sublime, Perret mythologue, et là, il y a une parenthèse, moi, dont je me suis à nouveau récemment, que j'ai cité récemment pour un petit travail, pour un prochain cahier. On ignore l'énorme travail auquel il s'est livré pour écrire son anthologie des mythes. Tu le sais très bien aussi, toi, Carla, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Des mythes, légendes et contes populaires d'Amérique, qui a été publié à titre posthume juste un an après sa mort. Enfin et surtout, Perret, le polémiste. Donc on va l'entendre un peu pour conclure cette présentation, puisqu'on va, on a souhaité vous faire entendre un petit extrait du fameux Déshonneur des poètes, donc vous avez compris, qui est aussi au cœur finalement de l'insulte qu'a adressée Huniet, parce que c'est quand même un des grands reproches qu'on fait continuellement, puisqu'il y a une sorte de finalement de consécration de la poésie engagée, et Perret, évidemment, et le surréalisme, je dirais en général, se trouve aux antipodes de cette démarche poétique. Donc, si le langage devient poésie, il ne devient pas poésie engagée, en tout cas, ça c'est certain. Alors donc, il y a une autre personne que je vous ai citée, bon, parce qu'à titre personnel, ça me fait toujours plaisir, à savoir Jean Schuster, qui n'a pas été président de l'Association des Amis de Benjamin Perret, mais qui a préfacé un des volumes des œuvres complètes, puisque une des entreprises que s'est fixée cette association dès sa naissance, c'est de faire connaître l'œuvre de Perret. Et donc comment ? Eh bien, en éditant les œuvres complètes. Donc il y en a 7 volumes qui ont paru, d'abord chez Losfeld pour les deux premiers, ensuite chez Corti, avec évidemment une part prise par l'association et par différents acteurs de l'association. Je voulais citer, pour les 3 derniers tomes, je veux citer aussi un ami qui est Guy Prévan, hein, qui a contribué aux 3 derniers tomes à partir du tome politique, justement, et qui a compté vraiment dans l'établissement de ces textes. Et aujourd'hui, on en est au point où on se dit, bah oui, on a fait paraître, alors je ne sais plus les dates, entre 4... ça c'est, je crois que le dernier tome a paru, je l'avais noté, voilà, de 69 à 95, hein, de 69 à 95 pour le dernier tome, enfin le 7, qui en fait n'est pas le dernier, parce que justement tout le travail de notre association, depuis qu'elle existe, a mis à jour, et là encore dans ce cahier, de nombreux inédits. Et donc aujourd'hui, ce qui se fixe pour nous comme un horizon, c'est de faire paraître un 8e tome des œuvres de Perret, alors, qui sera un peu un mélange. Alors je voulais dire un petit mot avant d'entendre un extrait du déshonneur, puisque dans le texte de Jean Schuster qu'on fait paraître dans ce dossier, donc qui s'appelle l'élu des mots, hein, dans cet élu des mots, il commence par inscrire Perret dans une généalogie qui pour lui est celle du romantisme allemand, puisqu'il cite un mot de Kleist, enfin, oui, une formulation de Kleist qui a fait rire Goethe, qui trouvait ça complètement déplacé. Je suis venu vers vous sur les genoux du cœur. Goethe aurait ri de cette formule des genoux du cœur, qui est finalement, dans l'esprit, nous dit Schuster, assez proche de ce que pourrait écrire un Perret. C'est-à-dire que cette sorte d'inadéquation avec une certaine attente poétique et qui est propre à, eh bien, cette ouverture qui est particulièrement sensible dans la poésie de Perret, qu'il a un peu lui-même aussi théorisé, qui est celle de l'automatisme. Un automatisme particulier, alors Schuster parle d'un lieu spécial, évidemment, qui est le lieu, disons, de l'inconscient, pour aller vite. Et c'est dans ce lieu-là que quelque chose, en tout cas, de la poésie de Perret se déplace à une vitesse particulière, qui est celle, justement, à la fois des textes qu'on a déjà pu entendre, mais aussi de la prose et des contes de Perret. Alors, pour conclure la présentation de ce dossier, donc on va vous faire entendre, Florence va nous faire entendre un extrait de ce texte qui a déchaîné l'ire de Dunier, à savoir Le déshonneur des poètes.
Si l'on recherche la signification originelle de la poésie, aujourd'hui dissimulée sous les mille oripeaux de la société, on constate quel est le véritable souffle de l'homme, la source de toute connaissance, et cette connaissance elle-même sous son aspect le plus immaculé. En elle se condense toute la vie spirituelle de l'humanité, depuis qu'elle a commencé de prendre conscience de sa nature. En elle palpitent maintenant ses plus hautes créations. Et terre à jamais féconde, elle garde perpétuellement en réserve les cristaux incolores et les moissons de demain. Divinité tutélaire aux mille visages, on l'appelle ici amour, là liberté, ailleurs science. La poésie demeure omnipotente, bouillonne dans le récit mythique de l'Esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrier, exhalant un dernier soupir de révolution sociale, donc de liberté. Elle étincelle dans la découverte du savant, défaille, exsangue, jusque dans les plus stupides productions se réclamant d'elle. Et son souvenir, éloge qui voudrait être funèbre, elle perce encore dans les paroles momifiées du prêtre, son assassin, qu'écoute le fidèle, la cherchant, aveugle et sourd, dans le tombeau du dogme où elle n'est plus que fallacieuse poussière. Ces innombrables détracteurs, vrais et faux prêtres, plus hypocrites que les sacerdoces de toutes les églises, faux témoins de tous les temps, l'accuse d'être un moyen d'évasion, de fuite devant la réalité. Comme si la poésie n'était pas la réalité elle-même, son essence et son exaltation. Mais incapable de concevoir la réalité dans son ensemble et ses complexes relations, ils ne veulent voir la poésie que sous son aspect le plus immédiat et le plus sordide. Ils n'aperçoivent que l'adultère, sans jamais éprouver l'amour, l'avion de bombardement, sans se souvenir d'Icare, le roman d'aventure, sans comprendre l'aspiration poétique permanente, élémentaire et profonde qu'il a la vaine ambition de satisfaire. Ces détracteurs méprisent le rêve au profit de leur réalité, comme si le rêve n'était pas un de ses désaspects et le plus bouleversant. Ils exaltent l'action aux dépens de la méditation, comme si la première sans la seconde n'était pas un sport aussi insignifiant que tout sport. Jadis, ils opposaient l'esprit à la matière, leur Dieu à l'homme. Aujourd'hui, ils défendent la matière contre l'esprit. En fait, c'est à l'intuition qu'ils en ont, au profit de la raison, sans se souvenir d'où jaillit cette raison. Les ennemis de la poésie ont eu de tout temps l'obsession de la soumettre à leurs fins immédiates, de l'écraser sous leur dieu ou, maintenant, de l'enchaîner au banc de la nouvelle dignité, divinité brune ou rouge, rouge brun de sang séché, plus sanglante encore que l'ancienne. Pour eux, la vie et la culture se résument en utile et inutile, étant sous-entendu que l'utile prend la forme d'une pioche maniée à leur bénéfice. Pour eux, la poésie n'est que le luxe du riche, aristocrate ou banquier. Et si elle se veut se rendre utile à la masse, elle doit se résigner au sort des arts appliqués, décoratifs, ménagers, etc. Mais le poète n'a pas à entretenir chez autrui une illusoire espérance humaine ou céleste, ni à désarmer les esprits en leur insufflant une confiance sans limite en un père ou un chef contre qui toute critique devient sacrilège. Tout au contraire, c'est au poète de prononcer les paroles toujours sacrilèges et les blasphèmes permanents. Le poète doit d'abord prendre conscience de sa nature et de sa place dans le monde. Inventeur pour qui la découverte n'est pas le moyen d'atteindre une nouvelle découverte, il doit combattre sans relâche les dieux paralysants, acharné à maintenir l'homme dans sa servitude à l'égard des puissances sociales et de la divinité qui se complètent mutuellement. Il sera donc révolutionnaire, mais non de ceux qui s'opposent aux tyrans d'aujourd'hui, néfastes à leurs yeux parce qu'ils desserrent leur intérêt, pour vanter l'excellence de l'oppresseur de demain, dont ils se sont déjà constitués les serviteurs. Non. Le poète lutte contre toute oppression, celle de l'homme par l'homme d'abord, et l'oppression de sa pensée par les dogmes religieux, philosophiques ou sociaux. Il combat pour que l'homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-même et de l'univers. Il ne s'ensuit pas qu'il désire mettre la poésie au service d'une action politique, même révolutionnaire. Mais sa qualité de poète en fait un révolutionnaire qui doit combattre sur tous les terrains. Celui de la poésie, par les moyens propres de celle-ci, et sur le terrain de l'action sociale, sans jamais confondre les deux champs d'action, sous peine de rétablir la confusion qu'il s'agit de dissiper, et par suite de cesser d'être poète, c'est-à-dire révolutionnaire.
Merci. Alors merci pour cet extrait, ce rappel pour certains mais c'est toujours un bon rappel. Donc en cette période de Jeux Olympiques, vous avez apprécié aussi la référence aux sportives. Évidemment, Perret était un très très grand sportif, comme chacun sait. Et puis ce qui est plus pour revenir, qui est un peu plus sérieux, c'est cette distinction qu'il a maintenue ferme, je dirais, entre l'action politique et ce qui relève justement de la poésie. Et pour avancer un peu dans la découverte de ce numéro 12, on voulait attirer l'attention sur précisément un inédit que l'un de nos adhérents nous a signalé, qui avait totalement échappé à nos radars et qui, on est entrevue, donc on peut parler de revue, et qui a été découvert dans une revue donc, dont va nous parler Carla, qui s'appelle Analysis, et qui justement est une prise de position d'ordre politique là de Perret, qui est un des tout premiers justement à attirer l'attention sur la nature de camps de concentration, de camps d'internement, donc mis en place par le gouvernement de Vichy en Afrique du Nord. Et pour avoir fait lire cette revue à un certain nombre de personnes et d'historiens, donc en dehors du cadre, disons, de ceux qui sont déjà acquis à la cause de Perret, je dirais, c'est un article qui nous a, dont on est très heureux, très fiers de pouvoir le porter à la connaissance générale. Et donc Carla, qui l'a introduit, va nous en dire quelques mots.
Donc effectivement, sur les plans de l'action sociale, avec cet article, Benjamin Perret, il a dénoncé l'enfer des conditions de vie sous Pétain pendant l'occupation. Hein, et j'ai fait la traduction donc, de cet article qui a été une belle surprise pour nous, parce que en effet, moi, mes recherches se sont concentrées surtout sur la période d'exil de Benjamin Perret. Et j'ai beaucoup lu des correspondances, des références à cet article. Mais c'est seulement maintenant qu'on a pu le retrouver. Donc, on n'a pas retrouvé les textes originaux en français. Du coup, j'ai dû faire la traduction de la traduction, qui avec des coquilles et des termes un petit peu bizarres. Donc, bon, c'est peut-être qu'un jour on retrouvera les textes originaux, mais effectivement c'est très intéressant parce que c'était un sujet qui était trop peu connu à l'époque sur les camps d'internement, surtout en Afrique du Nord.
Et c'est vrai que c'est par des réseaux politiques qu'il a eu accès à un certain nombre d'informations qui étaient très très rares sur la manière dont ces camps étaient tenus justement, la violence qui y régnait. Et donc à l'époque, on a pas mal discuté sur l'appellation, enfin sur la manière d'intituler cet article, puisqu'il parle de camp d'internement ou camp de concentration. Mais évidemment, avec le recul du temps, il écrit ça donc en 1942, hein, il est paru en 1942 dans une revue, donc alors qu'il est mexicaine, hein, qui est paraît au Mexique, donc qui s'appelle Analysis. Alors tu le dirais mieux que moi, Revista des. Alors, je te laisse dire.
Revista de Hechos e Ideas.
Voilà, et c'est quand même un peu mieux, voilà, avec l'accent qui convient. Et c'est vrai que ça a été, même au plan historique, on a fait quelques recherches. Il y a des travaux de l'historien Denis Péchanski qui porte sur ces questions justement. Et ce sont des camps sur lesquels il y a très très peu d'informations. Hein. Donc, et là, évidemment, Perret est au premier plan de la lutte politique, hein, parce qu'il dispose d'informations dont très peu disposent. Et puis, donc il écrit un article qui met en évidence la violence qui règne dans ces lieux d'internement. Voilà.
Oui, donc effectivement, selon les correspondances, on dirait que Perret a eu des témoignages de première main, parce qu'en fait, il était donc avec Remedios Varo à Marseille, en attendant de pouvoir s'exiler. Il part de Marseille vers Oram, et c'est là qu'il aurait eu des témoignages directs, ouais, de ces camps d'internement. Peut-être on va entendre un extrait.
Maintenant, on va justement pour faire comprendre un peu la nature de ce texte. Donc, Florence va vous en lire un passage.
La situation des émigrés antifascistes en France est déplorable, voire tragique. Ceux qui ont réussi à échapper à la police sont, pour la plupart, privés de permis de travail, condamnés à vivre seuls si personne ne leur vient en aide. Autrement, du fait même qu'ils ne travaillent pas, ils sont à la merci de n'importe quelle razzia qui les entraîne dans un camp de concentration sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens d'existence. Il est donc aujourd'hui quasiment impossible pour un étranger d'obtenir un permis de travail. Dans la zone non occupée, les razzias s'enchaînent et les incursions policières dans les auberges les moins chères, les seules où la plupart des réfugiés peuvent séjourner, sont quasi quotidiennes. En une quinzaine de jours, en novembre dernier, plus de 12 000 arrestations ont eu lieu dans la zone non occupée. La plupart des détenus étaient des étrangers, Le fait d'être en règle avec les 1000 réglementations de police concernant les étrangers n'assure aucune protection aux réfugiés. Il lui évite seulement d'être envoyé en Afrique du Nord dans les chantiers transsahariens. C'est tout. Alors, une fois arrêté, le réfugié est renvoyé ou bien il est placé dans un camp de travail. Et c'est bien d'esclaves qu'il s'agit, car ils n'ont pas le pouvoir d'accepter ou de refuser tel ou tel maître. Qu'ils soient à la campagne, dans une ferme, les détenus reçoivent toujours 50 centimes par jour. Ce n'est rien comparé aux camps africains et aux travaux du transsaharien. Le plus tristement célèbre de ces camps est celui de Bou Harfa, dans le sud du Maroc. Dans tous ces camps, les détenus sont sous les ordres d'officiers retraités de l'armée coloniale, ivres du matin au soir et surveillés en permanence par des Arabes et des Sénégalais, brutalisés par la discipline de fer qui règne dans ces régiments. Le plus odieux, c'est que ces déportés sont pour la plupart des antifascistes de tous les pays d'Europe qui, au début de la guerre, ont cru de bonne foi que le moment était venu de s'engager dans l'armée française pour en finir avec Hitler. À l'armistice, Pétain les a déplacés d'un camp à l'autre pour finalement les déporter dans ces camps de travail forcé, à côté desquels les camps les plus sinistres d'Allemagne et de Russie font figure de paradis. Ce n'est pas une image. Il y a eu en France et en Afrique du Nord des Allemands évadés des camps hitlériens, dont ils connaissaient l'horreur, qui ont préféré retourner en Allemagne plutôt que rester dans l'horreur des camps français.
Merci Florence pour cette lecture, donc qui vous donne un petit aperçu de la nature de ce texte, donc assez bon inédit, totalement inédit pour nous, et qui livre un autre aspect effectivement de la figure de Perret militant et à l'affût comme ça d'informations qui lui arrivaient de manière assez exceptionnelle et qu'il ne manquait pas justement de faire savoir, en tout cas autant qu'il pouvait le faire, à travers aux autres, enfin au reste du monde, à travers les revues qui étaient à sa disposition. Pour avancer un peu maintenant, pour présenter encore un autre aspect de ce numéro 12, on voulait attirer l'attention aussi, puisque certains peut-être parmi vous ne connaissent pas tout à fait notre revue ou ne l'ont pas eu en main. D'ailleurs, il y aura un certain nombre d'exemplaires que vous pourrez feuilleter librement. Mais il ne vous a peut-être pas échappé donc l'austérité, disons, extérieure de le parti pris un peu austère de la couverture qui renvoie un peu à un dossier de recherche. Et c'est comme ça qu'on l'a voulu dès le début dans la conception graphique qui a été réalisée par Renaud Buener. Et évidemment, par contraste, l'intérieur de la revue est très richement illustré, et richement illustré aussi de contributions artistiques qu'on sollicite autour de nous. Et j'aimerais dire quelques mots donc de quelques amis artistes qui ont contribué à illustrer ce numéro, à commencer par Gilles Guez. Gilles Guez, qui, vous verrez en feuilletant la revue, est assez présent dans ce numéro. Et l'un de nos amis, lui consacre aussi une présentation parmi les documents. Donc, vous verrez un certain nombre de textes qui ont été mis en forme, finalement, pour présenter l'œuvre de Gilles Guez par Jean Bazin, donc qui a recueilli un certain nombre de citations un peu significatives présentant l'œuvre de Gilles Guez. Et Gilles, donc qui nous soutient depuis le début, donc nous a accordé de reproduire un certain nombre de ses œuvres qui entrent en écho effectivement avec Perret. Silbermann, Jean-Claude Silbermann, là aussi, qui est un ancien membre du groupe surréaliste, hein, qui est toujours un ami de Benjamin Perret, donc est aussi présent à travers ce numéro, donc d'ailleurs par une œuvre, une enseigne, L'effraction des demoiselles, que certains connaissent bien, parce qu'elle était présente dans le film de Jean-Claude Silbermann. Il avait soumis à un certain nombre de personnes cette enseigne, et on devait réagir. Certains dans l'auditoire, donc Christian Bernard en faisait partie, je crois. En tout cas, il a contribué à ce film. Et moi-même, j'ai dû me plier à l'exercice. Donc, cette œuvre, donc L'effraction des demoiselles de 2007, une huile sur toile, marouflé donc sur contreplaqué, donc vous pourrez la découvrir aussi dans ce numéro. Et puis, on a rendu hommage aussi à travers un texte que nous a donné Jean-Jacques Lebel. Donc, on a parlé de Robert Lebel, qui a été le premier président de notre association. Donc, son fils, Jean-Jacques Lebel, a rendu hommage à Hervé Télémaque lors de ses obsèques. Et il a consacré un texte, évidemment, qui mettait l'accent sur la dimension anticoloniale de l'œuvre de Télémaque. On a entendu, là, Perret parler, justement, de ce point de vue, disons, anticolonialiste, qui est celui qui est très profondément ancré dans l'histoire du surréalisme, hein, depuis les débuts. Et donc, Jean-Jacques Lebel nous a donné donc son texte d'adieu à Hervé Télémaque, et on a pu reproduire aussi donc l'œuvre de Télémaque qui s'appelle Toussaint l'ouverture à New York, de 1960, qui est actuellement... Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais en tout cas, elle est actuellement, cette œuvre, je ne sais pas si elle est constamment présentée au musée des Beaux-Arts de Dole. Et je voulais aussi dire un petit mot, puisque bon, j'ai l'habit pour le faire, de Simon Antaille, puisque l'éditeur des textes de Simon Antaille, à savoir l'atelier contemporain de François-Marie Desrolles, nous a autorisé à reproduire un petit texte qui reprend l'affaire de la collaboration qui s'est faite un moment entre Jean Schuster et Simon Antaille autour d'un texte qui s'appelle Une démolition au platane. Et là encore, c'est l'intérêt de ces cahiers. Disons, en faisant part de cette volonté de publier cet extrait, donc qui est la reprise telle quelle du volume Simon Antaille, texte et entretien, qui est apparu donc aux éditions de l'Atelier Contemporain. La famille de Simon Antaille a retrouvé une photo que j'aurais bien voulu avoir au moment voulu, mais bon, une photo de Simon Antaille et de Jean Schuster, donc dans les années 50, donc qui est en pleine page reproduite, la page 96. On voit Antaille et Schuster dans la rue en train de discuter au moment même où ils étaient donc proches et où ils élaboraient ensemble cette démolition au platane qui va faire un peu de bruit au sein du groupe surréaliste et qui va être assez vite, étouffé. Et quelques temps après, Antaille, dans les circonstances sont expliquées dans le texte, va sortir du groupe sous l'effet de plusieurs circonstances. Déjà, ce qui se passe en Hongrie, une conversion religieuse, et puis un différend sur la nature même de la peinture, en tout cas tel qu'il l'envisageait à ce moment-là, et ce qu'il estimait être une sorte d'absence d'attention des surréalistes justement à ce qui se passe du côté, pour lui, de Pollock et du côté de Matisse. Bon, voilà, donc c'est ce qui expliquerait, en tout cas autant que j'ai pu le comprendre en rencontrant Antaille à un certain moment, un peu avant la fin de sa vie, de cette fameuse affaire, enfin de cette affaire, pas très fameuse d'ailleurs, hein, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais de cette affaire de la démolition au platane et du passage, pas si éclair que ça, de Simon Antaille dans le groupe surréaliste. Donc voilà pour, si vous voulez, le parti pris de cette revue, donc qui richement illustrée de divers documents, de photographies, et aussi donc c'est là-dessus que je voulais insister, des contributions donc artistiques de nos amis qui restent aussi attentifs, à ce que Perret leur a soufflé dans l'oreille. Et on voudrait donc là encore vous faire entendre un extrait. Que nous a préparé donc Florence pour ponctuer donc cette présentation avant de s'acheminer doucement vers la conclusion.
Alors, c'est un texte tiré de l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, extrait du texte d'introduction sur Benjamin Perret. Il fallait, on va voir pourquoi je pèse mes mots. Il fallait un détachement à toute épreuve, dont je ne connais bien sûr pas d'autre exemple, pour émanciper le langage au point où d'emblée Benjamin Perret a su le faire. Lui seul a pleinement réalisé sur le verbe l'opération correspondante à la sublimation alchimique, qui consiste à provoquer l'ascension du subtil par sa séparation avec l'épais. C'est ici que Benjamin Perret intervient en libérateur. Jusqu'ici, en effet, les poètes les plus grands s'étaient comme excusés d'avoir vu très franchement une mosquée à la place d'une usine. Rimbaud. Ou avaient dû prendre une attitude de défi pour affirmer qu'ils avaient vu une figue manger un âne. Lautréamont. Tout est délivré. Tout poétiquement est sauvé par la remise en vigueur d'un principe généralisé de mutation, de métamorphose. On ne se borne plus à célébrer les correspondances comme de grandes lueurs malheureusement intermittentes. On ne s'oriente et on ne se meut que par une réalisation ininterrompue d'accords passionnels. J'en parle de trop près, comme d'une lumière qui, jour après jour, 30 ans durant, m'a embelli la vie. L'humour jaillit comme une source.
On voulait vous lire ce petit extrait donc que Breton consacre à son ami, donc de très très près, comme il le dit lui-même, parce qu'il magnifie un peu cette relation de toute une vie. C'est le titre d'ailleurs d'un poème de Perret que Perret a consacré à leur relation, qui va sans doute nous, petit scoop pour ce soir, qui va sans doute nous servir de fil conducteur pour l'un des projets qu'on compte mener à bien dans l'année à venir, à savoir une exposition qui prendra place sur notre site, une exposition numérique qui justement sera axée sur cette relation privilégiée entre André Breton et Benjamin Perret. Donc une relation de toute une vie marquée par tout ce que vient de dire extrêmement précisément André Breton par la voix de Florence, et qui précise justement ce qui était finalement l'ambition de cette petite présentation, c'est-à-dire pourquoi avec Perret le langage devient poésie. Alors, il le devient par tout ce que vient d'énoncer Breton, et ce principe de métamorphose, je crois qu'il l'avait, je sais plus, j'ai oublié donc pour quel texte, mais il y a un texte de Perret qui s'ouvre comme ça en disant « ici l'on métamorphose, ici on métamorphose ». Et c'est vraiment ce qui se passe constamment dans l'œuvre de Perret. On espère qu'on vous a donné un peu ce sentiment de métamorphose continue, donc à travers les lectures. Et j'espère aussi à travers ce qu'on tente de faire justement dans ces cahiers de Benjamin Perret, où alors on aurait pu vous parler d'autres choses, d'autres sujets, des amis qu'on salue à travers des études, parce que bon, il y en a un certain nombre qui ont contribué, comme Gérard Durosoy, Jacqueline Chénieux-Gendron, qui ne sont plus là, et d'autres qui sont bien vivants et qui nous aident, comme Stéphane Massonnet, comme un jeune chercheur, Emmanuel Beauchard, donc, dont on trouvera vous trouverez les études dans ce numéro. Et donc, à travers aussi tout le travail qu'a fait Jean-Luc Gillet pour travail d'attention lié à toutes les dédicaces que Perret a reçues et dont il a fait une sorte de répertoire qu'il conduit à nouveau, qu'il reconduit à nouveau dans ce numéro. Donc vous verrez que ce numéro composite, donc, et on l'espère métamorphique, répondra à un certain nombre d'attentes. Et pour conclure véritablement cette présentation, on voulait vous donner lecture d'un inédit à nouveau que vous trouverez dans ce numéro. Alors j'en ai cité un de Jean Ferry et d'Ado Kirou en commençant. Là, celui qu'on voudrait vous faire lire, c'est de quelqu'un qui est entré un peu, qui est entré et sorti du groupe surréaliste, bon, comme un certain nombre, pour des raisons là liées à, une idée d'acteur, une inadéquation liée à des partis pris religieux, mais qui n'en reste pas moins un des grands analystes des éléments fondamentaux du surréaliste, à savoir Michel Carouge. Et donc on a retrouvé un texte de Michel Carouge qui nous semblait la meilleure des conclusions pour vous donner l'envie d'entrer dans ce numéro 12. Et Florence va nous en faire la lecture. Un extrait.
Donc ce dernier texte donc de Michel Carouge a été publié en 1954 à l'occasion de la réédition du conte de Benjamin Perret, Mort aux vaches et aux champs d'honneur, donc écrit au début des années 20, et on le retrouve donc dans le cahier numéro 12. Les pages de Perret supportent allègrement la réédition et la lecture et la relecture. On ne manquera pas, naturellement, de récuser la puissance poétique de ces pages si l'on pose a priori une définition ou un goût particulariste de la poésie. Si l'on exige d'elles l'esprit de sérieux, la mélancolie, ce qu'il est convenu d'appeler une forme parfaite ou n'importe quel autre genre d'accommodement. La cohérence des images, par exemple. Leur pouvoir poétique tient au contraire à ce qu'elles sont des exercices de liberté absolue. Chez Perret, les images jaillissent à profusion avec la vitesse de la foudre. C'est un des traits les plus caractéristiques de sa poésie. Elle abonde en métamorphoses si instantanées, si brusquement reprises et transformées coup sur coup, que la pâle raison n'y voit que de l'incohérence. On a trop oublié qu'il fut un temps pas si lointain où, faute d'habitude, on se laissait déconcerter par la vitesse alors insolite avec laquelle défilaient les images dans le montage des films. La vitesse proprement fantastique des images de Perret exige une rapidité d'accommodation encore supérieure. Mais c'est elle aussi qui offre, à qui veut y consentir, la source d'un extrême et incomparable plaisir. Non moins caractéristique de cette poésie est l'humour dont elle déborde. Il est bien inutile de se fatiguer à prendre platement au sérieux, comme une poésie descriptive, ce qui est d'abord un jeu pur et féerie passionné, délectable, désinvolte et féroce. Rien de plus frappant à cet égard que de voir comment, au début de l'ouvrage, elle voltige en plein merveilleux et tourne à la fin en un pamphlet où se retrouvent toutes les joies des comptes rendus parlementaires du journal officiel, mais complètement subverties par un vol d'oiseaux-mouches de toutes les couleurs. Perret a peu écrit parce qu'il a refusé de s'imiter lui-même. Il a refusé de faire, comme tant d'autres transfuges, une avantageuse carrière au prix des concessions d'usage. Ce n'est pas par hasard, mais parce qu'il est un des grands et rarissimes poètes qui expriment et qui sont le surréalisme à l'état pur.
Vous l'avez entendu, désinvolture et férocité, c'est le programme. Donc maintenant, on vous invite à le lire et on vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à tous. Et on peut évidemment répondre à toutes vos questions.
Vous évoquiez l'article de Georges Humier, il a été publié en 62, c'est ça ? Et je me demandais si l'émission radio qui a eu lieu en novembre 62 par des lectures de Breton, justement, il fait une très très belle lecture des honneurs aux poètes, et cette émission est réalisée par Jean Mailloux, était la première des réactions qui va anticiper la création de l'association. Elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle Photogramme, je crois.
Je ne sais pas si c'est la première des réactions. La première des réactions, ça a été une visite un peu musclée, disons, de trois surréalistes, Vincent Bounour, Jean Schuster, et puis c'était Zimbaka, je crois. Oui. Il y a trois surréalistes qui sont venus demander, qui ont été à la porte de Georges Hunier et qui ont un peu demandé de se rétracter. Bon, ils l'ont demandé avec une certaine insistance. La conséquence a été que il y a un procès qui s'est tenu.
Il y a été giflé et il y a eu un procès.
Et c'est à l'occasion de ce procès que précisément André Breton écrit une lettre pour soutenir ses jeunes camarades. Voilà. Et c'est cette lettre qu'on fait figurer dans les cahiers qu'on ne connaissait pas. Et donc ça, ça a été la première réaction. Et puis ensuite, effectivement, vu que l'œuvre de Perret était très disséminée hein, par des... Alors, il y a eu L'Osfeld était fidèle, mais il y avait très peu de choses disponibles. Et donc très vite, bon, Breton étant quand même était encore présent, hein, l'idée ça a été de faire en sorte que cette œuvre soit disponible tout simplement. Hein, donc et c'est passé par la constitution d'une association, c'est passé aussi par le dépôt de ses archives à la Bibliothèque nationale, hein, donc qui a dû se faire dans la foulée. Je ne sais pas exactement les dates là, mais puisque Perret était, enfin, il habitait dans une sorte de masure qui était, enfin, un appartement qui était très misérable que mettait à sa disposition Jean-Louis Bédouin. Et donc il y avait très peu de choses. Enfin, il possédait très très peu de choses. Hein, il a vécu jusqu'à la fin de sa vie dans une très grande précarité. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors je ne sais pas, ça fait partie des réactions, pour vous répondre. Ça fait partie des réactions. Laquelle a été la première ? La première, je pense que ça a été ces trois surréalistes qui sont dans la tradition, si vous voulez, aller chercher une explication un peu directe. Voilà. Ce qui, bon, bah, c'était... Il y avait eu une attaque dans la presse qui était injuste, quoi. Hein, c'était vraiment injuste, puisque... si on connaît un peu la vie de Perret, on sait que précisément, c'est lui qui... Enfin, il est parti en Espagne, il a, dans le genre planqué, on fait mieux, quoi, si vous voulez. Donc, c'était la moindre des choses de se rétracter, surtout de la part d'un auteur qui, bon, bah, n'avait pas de... Mais c'est vraiment un règlement de compte par rapport au déshonneur des poètes. Hein, c'est ce texte qui est resté à travers la gorge de beaucoup d'hommes de lettres, quoi.
Si lu, si étudié, mais quand même, la qualité, la puissance de sa poésie semble. Voilà, ça paraît incompréhensible que l'université. Non, enfin, je pense. Il n'y a pas que l'université, mais quand même, elle contribue, pourrait contribuer à faire connaître. Comment se fait-il ? C'est quand même assez étrange, hein, quand même. Ça fait maintenant bientôt. Hein, c'est impressionnant. Quoi.
On peut apporter beaucoup de réponses. Mais...
Oui, je pourrais apporter un élément de réponse par rapport au rayonnement au rayonnement radiophonique, parce que historiquement, bon, la radio, depuis 1945, joue un rôle important dans la diffusion de la poésie. Et moi, comme réalisateur, bon, je suis Michel Sidoroff, réalisateur, et auteur et producteur.
Et membre de l'association.
Et membre de l'association, bien sûr. Quand j'ai réalisé deux émissions de radio avec les textes de Benjamin Perret, mais avant de réaliser la première, j'ai essuyé plusieurs échecs dans mes demandes. Et il faut signaler quand même le rôle d'une certaine direction de France Culture à l'époque. Et c'était Alain Trutat. Alain Trutat était alors à la fois quelqu'un qui pouvait encourager des projets franchement délirants, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu monter le Concile d'amour de Scarpanizza, ce qui quand même était à l'époque un événement.
Parmi les mais, textes découverts par Breton aussi.
Voilà, exactement. Breton, ouais. Mais lui, malheureusement, relayait toute la... Alors bon, il n'était pas au PC, mais il relayait la propagande stalinienne contre Benjamin Perret. Et il s'était persuadé qu'il y avait du vrai là-dedans. Et donc, tant qu'il a été aux manettes, je n'ai pas pu réaliser l'émission sur Perret. Il a fallu qu'il parte pour que je puisse le faire. Et ça, c'est quand même un problème. Mais le même problème existe au niveau de l'université. Hein. C'est
oui, y a
similaire.
Indéniablement...
Non, bien sûr. Bien sûr, mais il y avait la peur, si vous voulez, la peur d'une poésie subversive. C'est ça aussi qui, chez les universitaires, qui sont quand même souvent assez peureux, assez côteleux. Ils sont moins peureux quand il s'agit de défendre quelqu'un comme Heidegger, hein, qui pourtant était un nazi. Hein. Là, ouais, voilà. Là, ils sont moins peureux. Hein. Mais alors, quand il s'agit de poètes vraiment subversifs, là...
Ça dépend, parce qu'il y aurait des contre-exemples.
Mais ça a évolué, ça a évolué.
On pourrait parler de plein de... Mais c'est vrai qu'il y a cette lecture politique. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est indéniablement vrai, hein. Mais il y a peut-être aussi d'autres éléments, c'est que effectivement l'œuvre était difficilement accessible, hein. C'est-à-dire que autant pour Desnos, pour des gens voilà qui étaient aussi très présents, qui ont été très étudiés, Luard, etc. Bon, là on a le lien avec le Parti communiste, c'est évident, mais il y en a d'autres qui ne sont pas, disons, qui n'étaient pas directement liés au Parti communiste et qui ont bénéficié finalement d'une reconnaissance. Je parle de Desnos par exemple, mais bon, c'est lié aussi à des circonstances de sa mort, mais aussi à le fait que cette œuvre, sans doute, était plus facile d'accès quand même. Il ne faut quand même pas non plus, dire que l'œuvre de Perret est toujours facile d'accès. L'automatisme tel qu'il est mené par Perret est très déstabilisant quand même. Hein. Il est quand même très déstabilisant et c'est vrai qu'il peut parler de manière assez... Si on peut se mettre dans une disposition humoristique comme il l'attend, ça va. Mais pour un certain nombre de lecteurs, je pense qu'il n'entre pas. Il n'entre pas parce que cette capacité métamorphique constante, elle est difficile à suivre. Et je pense que ça explique aussi peut-être des choses. Et puis le radicalisme de Perret, d'un point de vue politique, ça peut. C'est vrai que c'est quelqu'un de tranchant. Donc ce côté tranchant, il faut aussi l'accepter. Et là encore, on l'a dit, mais le déshonneur a beaucoup compté. Hein, parce que quand même, on a biberonné un certain nombre de toute une génération, moi le premier aussi, à la poésie de résistance. Quoi. Hein, c'est ce qu'on apprenait à l'école, etc. Hein, c'est vrai. C'est oui, ça aussi. Ah, oui, parce que il y avait...
Oui, j'essaie de parler. Mais...
C'est la démocratie.
Non.
Écoutez, et puis quand tu parles des universitaires qui sont très étudiés, très appréciés, mais c'est pas facile, Jacotet, c'est pas si facile, une bonne fois. C'est quand même difficile, c'est quand même plus difficile à la vie que le Perret. Et qui ont des thèses à n'en plus finir.
Oui. Oui, je voulais signaler, tu les connais, il y a des universitaires qui avaient un certain pouvoir, Madame Gendron, Madame Dumas. Donc ces gens-là, alors peut-être qu'ils n'étaient pas sensibles à ce poète, mais elle avait le pouvoir de trouver des thésards. Alors ça, c'est une remarque au niveau des universitaires. Alors, il faut distinguer hein, les gens qui font de la philo allemande et puis c'est deux paquets différents, deux réseaux différents. Sinon, et puis, alors, d'autre part, j'avais une question par rapport au texte sur les camps. Alors, il a été en Algérie ou au Maroc, Perret ? Non, pas du tout, non.
C'est en partant, il a transité par Oran, c'est ça ? Il a pris.
Mais il n'est pas resté là-bas. Oui.
Non, mais il a transité comme beaucoup. Je pense qu'il y avait des moments. Breton a pu s'embarquer directement depuis Marseille, ce qui n'a pas été le cas pour Perret. Hein. Donc, parce que pour des raisons politiques, il n'avait pas obtenu justement les visas que Breton avait pu obtenir. Donc, il est passé par Oran et c'est là qu'il a dû obtenir. C'est l'hypothèse qu'on fait. C'est au moment de son passage par Oran qu'il a dû obtenir un certain nombre d'informations, parce que sans doute qu'il a pris contact avec les réseaux, disons, liés antifascistes, peut-être liés au... Je ne sais pas.
Oui, alors, faudrait voir si peut-être c'est... Faudrait voir si Albert Camus, dans ses chroniques algériennes, là, les textes politiques de témoignages, dans les années 40, ne parle pas de ces camps-là. Parce que je sais qu'il a écrit des textes qui étaient vraiment des témoignages terribles, mais qui n'ont pas eu d'écho à l'époque. Mais quand vous les relisez, ça a été recueilli chez Gallimard. Il dénonce tout un tas de scandales sociaux, de maltraitances, de toutes sortes de gens. Donc, il faudrait voir si...
C'est une recherche qu'on n'a pas faite. C'est vrai qu'on a repéré les travaux de Denis Péchanski sur ces questions, qui a consacré son travail de... On l'a indiqué dans la revue, en tout cas un travail de recherche assez camp, là. Et on n'est pas allé plus loin, effectivement, mais ça mériterait de l'être, effectivement. De toute façon, c'est un travail qu'on fera lorsqu'on va recueillir ce texte dans le volume 8, qui doit justement accueillir tous ces inédits qu'on a mis au jour au fil des, bah, au fil des années, hein, depuis les cahiers, puis avant ce qui a précédé les cahiers, la brochure qui s'appelait « Trois cerises et une sardine ». C'est la reprise d'un titre d'un recueil de Perret.
Mais à propos de la difficulté d'accès à la poésie de Perret dont tu parles, quand même, il faut noter que la réception des poèmes de Perret, par exemple dans la jeunesse, moi j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes comédiens sur les poèmes de Perret, mais c'est un émerveillement pour tous ces gens-là. À chaque fois, les gens sont émerveillés et donc ils ne sont pas du tout rebutés. Donc je ne pense pas que le problème soit vraiment là. Mais le problème, effectivement, il existe chez des universitaires qui ont une approche très rationaliste de la poésie, pour qui, effectivement, une poésie dite engagée, par exemple, c'est plus facile parce qu'il y a une sorte d'évidence comme ça littérale de la chose. Maintenant, dans le public en général, c'est différent. Là, je crois que là, il y a une vraie sensibilité à la poésie de Perret. Et donc, il y a de l'espoir, ce côté-là.
On en a, hein, on en a.
Il y a eu une vingtaine de thèses
qui ont succédé, mais le déclenchement, c'est idiot, hein, mais il y a un concours qui s'appelle La Grègue, et ça déclenche.
Contrairement à bonne foi, n'écrit pas pour l'université. Quoi.
Non, j'entends bien. Mais
chers amis, quand vous prenez la parole, il faut que vous utilisiez le micro. Sinon, ça posera des problèmes d'enregistrement. Voilà, faites-le passer.
Oui, je ne prends pas du tout. Je ne suis pas spécialement pour les universitaires. Mais disons que je remarque, pour Jacques Côté, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur Henri Thomas. Et... sans me vanter, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des colloques. J'étais au Japon, moi. J'ai fait des colloques sur Henri Thomas. Il y avait zéro thèse. Et au bout de deux ou trois colloques, il y a eu six thèses sur Henri Thomas.
Il nous reste à faire des colloques, voilà. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Hein.
Sur l'histoire de la réception dans le monde universitaire de l'œuvre de Benjamin Perret, ça mériterait une véritable étude, d'ailleurs. Voilà. Bon, moi, mon seul témoignage personnel, c'est que j'ai travaillé deux maîtrises et deux DEA sur Benjamin Perret dans le milieu universitaire avec Jacqueline Chenu-Gendron, Henri Béard et Philippe Dagen. Mais à un certain moment, j'ai laissé tomber parce que je voyais qu'il n'y avait pas de véritable intérêt. L'exemple, c'était Henri Béard qui s'était endormi pendant mon exposé sur la jeunesse de Benjamin Perret. Bon, donc moi, j'ai laissé tomber tout ça. Ça peut se comprendre.
Dormir, mais pas dans les pierres.
Voilà. Bon, bref. L'histoire de réception, oui, elle est paradoxale, ça. Tu l'as bien dit, Michel. En même temps, le déshonneur des poètes éveille toujours un intérêt aujourd'hui. C'est très paradoxal, c'est aussi lié à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est pas moi, je répondais une question, notamment à Jérôme, qui est tout autre, puisque c'est la séance un peu des questions. C'est, j'ai bien compris que le travail dans l'avenir proche et moyen de l'association, ça va être le volume 8, c'est bien ça.
Oui, c'est une.
Et donc ma question, c'est. Et après, est-ce qu'il y a une réflexion sur ce que l'association veut faire à plus long terme? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que là, il faut aussi qu'on la soutienne, cette association, dans le temps et la durée. Et on peut tous s'y intégrer, je pense. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur le moyen et le long terme dans l'avenir de l'association?
Oui. En tout cas, il y a plusieurs... Enfin, je ne vais pas être tout seul à... On pourra peut-être parler un peu de l'exposition aussi, je l'en ai dit un mot. Mais donc le tome 8, c'est quand même un gros travail qui reste devant nous, parce que même si les textes existent, il faut quand même les présenter et puis donner une cohérence à ce volume. Donc ça fait partie de notre avenir. continuer autant que faire se peut les cahiers. Et puis, il y a notre collection qu'on a intitulée Main Forte. C'était amusant parce que en réunissant donc ces inédits, on a vu qu'à un moment, c'est Pierre de Massot qui propose à titre... Parce que Main Forte, c'est le titre de notre collection de textes. Et bon, il y a eu déjà un certain nombre d'éditions. Et bon, le prochain, en principe, ce sera Carla qui va proposer un livre. Enfin, elle l'a déjà proposé. Et donc, cette collection Main Forte, il y a un petit écho dans ce cahier, puisque finalement, à un moment, voilà, j'avais noté, Pierre de Massot proposait comme dédicace de l'association, à ton point fermé, nos mains ouvertes. Donc on essaie de garder cette ligne côté point fermé et mains ouvertes. C'est-à-dire que bon, les mains ouvertes, bon, c'est en quelque sorte les cahiers. Ce qu'on va aussi, je pense, donc conclure donc avec ce tome 8. Et puis l'un des projets outre Main Forte, c'est tu vas en dire un mot, Carla. Donc cette idée d'exposition.
Oui, donc voilà, on prépare à une exposition numérique sur l'amitié entre Benjamin Perret et André Breton. Ce sera l'occasion de présenter plusieurs documents, des photographies, des œuvres, des extraits de l'œuvre des deux poètes qui sont en dialogue. C'est vraiment en même temps un hommage et voir comment les œuvres dialoguent profiter aussi de toute l'iconographie qu'on a autour de cette amitié et aussi par là même de la notoriété d'André Breton comparée à celle de Perret, donc pour pouvoir peut-être diffuser un peu l'œuvre à d'autres publics.
C'est ça notre, en tout cas c'est un des paris, donc outre ce qui relève effectivement de notre mission, c'est-à-dire les œuvres complètes, c'est peut-être par cette exposition, trouver d'autres lecteurs, plus jeunes, qui vont entrer dans cette œuvre qui nous semble mériter toute l'attention, comme vous le témoignez à juste titre pour nous ce soir. Donc ça, c'est les chantiers qui s'ouvrent à nous pour l'avenir. Je pense que ça va nous occuper un certain temps quand même. Alors après, voilà.
On est ouvert à des propositions, des idées. Bien
sûr. Et d'ailleurs, on voit dans le public même de cette soirée des passages qui vont pouvoir se faire entre les groupes, les âges, les générations, j'ose dire. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour l'enregistrement, mais vous pouvez continuer quelques instants. Nous serons chassés manu militari à 20h30. Donc, le temps de feuilleter la revue, peut-être l'acheter, voire s'abonner, ou même la revue des revues qu'Entrevue vous propose. En tout cas, merci de votre présence. Donc, dans quelques semaines, cette soirée sera retransmise sur Canal U, une plateforme universitaire. Et nous vous recevons avec plaisir le 14 mars autour de Littérature Action, pour son numéro sur François Maspero, encore une figure quasi révolutionnaire. Bonne soirée à tous.
Alors oui, peut-être, vas-y, je t'en prie.
Peut-être une date mystère.
Oui, je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais, Michel, tout à l'heure, sur le fait que des comédiens, des jeunes comédiens ont tout d'un coup un enthousiasme pour Perret. Les comédiens, ils disent les textes. Et je pense que la poésie de Perret, enfin, c'est mon expérience, j'ai eu un coup d'amour vraiment pour ce garçon et pour son œuvre, en disant moi-même les poèmes, d'une part, et en écoutant sur le site formidable des amis de Benjamin Perret, André Breton et Pierre Brasseur dire notamment Allô, c'est pas facile à trouver sur le site, c'est un site un peu mystérieux parfois, mais une fois qu'on le trouve, ce truc-là, c'est extraordinaire. Et donc, je voulais dire que c'est une des pistes pour moi et pour nous, avec Myrta, pour défendre Benjamin Perret, passe par dire ces putains de textes et les dire à donf, quoi, vraiment. Et donc, on va jouer, je vous le dis, un événement...
Le 29 juin.
Le 29 juin, à la Halle Saint-Pierre, avec donc les textes d'opéra.
Et de la percussion.
Voilà.
Et de la percussion. Mais pas n'importe quelle percussion, voilà. Je me fais l'interprète. Voilà, donc on va défendre...
On vous donne évidemment tous rendez-vous pour ce spectacle. Voilà, on sera présent, bien sûr, et c'est une entrée gratuite, en plus.
C'est carrément pas cher. Voilà.